الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، الموت la mort c'est une réalité à laquelle aucun d'entre nous ici présents ne va échapper. La mort ne fait aucune différence entre le grand, le petit, le riche, le pauvre, celui qui est âgé ou le jeune, ou ne fait pas différence de race. Donc c'est une réalité qui touche chaque chose vivante sur cette planète. Allah Azza wa Jalla dit, en affirmant cette réalité, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Chaque âme va goûtera à la mort. Chaque âme, sans exception. Même les âmes qui sont les plus aimées d'Allah Azza wa Jalla, comme celles de ses messagers, de ses prophètes, et de ses awliya, de ses bien-aimés, de ses proches, personne n'a échappé à la mort. Et bien sûr, beaucoup aimeraient échapper à la mort, mais ils n'en sont pas capables. Ils aimeraient donner tout ce qu'ils possèdent pour échapper à la mort. Leur fortune, surtout bien sûr les mécréants, ceux qui sont coulés dans cette vie d'ici-bas, et même malheureusement certains des musulmans qui sont coulés dans les tentations de ce bas monde et qui détestent le rappel de la mort de, par peur et de par dégoût de quitter les plaisirs dans lesquels ils sont coulés. Et Allah Azza wa Jalla parle de cela également dans le Coran, dans le verset où il dit Subhanahu wa ta'ala, Qul inna al-mawta alladhi tafirruna minhu. Il dit, dites, la mort de laquelle vous fuyez, vous échappez de laquelle vous fuyez, fa innahu mulaqikum. Il dit, pourtant, vous allez certes la rencontrer, vous allez certes la trouver. Thumma turadduna ila alim al-ghaybi wash-shahada. Il dit ensuite, vous serez ramenés, vous retournerez à celui qui connaît l'invisible et qui connaît le visible. Alimul ghaybi wash-shahada, Allah Azza wa Jalla. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Et ce jour-là, il vous informera de ce que vous avez fait. Il vous informera, c'est-à-dire il vous jugera de selon vos actions. إذن الموت حقيقة لا يستطيع أحد أن يفر منها والموت لا يفرق بين الغني ولا الفقير ولا الأبيض ولا يفرق بين الأبيض والأسود وإن كان الكثير من الناس يحبون لو استطاعوا أن يفروا منه لسوء ما سيلقونه وكراهة أن ينخلعوا عن الشهوات المحرمة التي هم غارقون فيها. Ce qui est sûr également, c'est qu'après la mort, il n'y a que deux destinations, pas trois. Ici-bas, quand on fait un voyage, on a beaucoup de destinations. On peut choisir vers, on veut la neige pour les vacances d'hiver, on veut le soleil, on veut la plage, on veut ceci, on veut une ville, on a le choix. Voilà que la mort, on n'a que deux destinations. Soit l'enfer, soit le paradis. Il n'y a pas d'autre destination. Et Allah Azza wa Jalla, en citant les deux catégories de gens après la mort, dit Fariqun fil Jannah wa Fariqun fil Sa'ir. Il dit une partie d'entre eux, donc après la mort, de ceux qui vont goûter la mort, c'est toute l'humanité, une partie d'entre eux au paradis et une autre partie, fi sa'ir, dans l'enfer. Donc, pas d'autre destination. Et, bien sûr, le billet du paradis est beaucoup plus cher que celui de l'enfer. Le billet du paradis s'achète très cher. Donc, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, حفت الجنة بالمكاره, le paradis recouvert de choses détestables, difficiles pour l'âme, qui est de la portée à l'obéissance d'Allah Azza wa Jalla. وحفت النار بالشهوات, et le paradis, l'enfer par contre, est recouvert des passions, par les passions interdites. L'enfer, c'est assez facile. Il suffit de se laisser glisser. On monte au-dessus du toboggan et on se laisse glisser jusqu'à ce qu'on tombe. Lakin, le paradis, c'est autre chose. C'est plus difficile. Il faut monter une pente, s'accrocher. Hein? C'est beaucoup plus difficile que l'enfer. Et la mort est un signe d'Allah Azza wa Jalla. Et c'est aussi une preuve qu'il y a un jugement par la suite, par rapport à ceux qui renient le jour du jugement dernier, qui renient qu'il y aura donc un jugement selon les actions de l'être humain. Car chaque personne est sur terre, et qu'il y ait mort n'est pas le fruit du hasard, comme il le prétend, que l'homme vient du hasard. Chaque personne a ce laps de temps qui lui est déterminé pour faire des bonnes actions ou des mauvaises. Et ensuite, Allah Azza wa Jalla a désigné un terme à sa vie, et il sera jugé selon ses bonnes ou ses mauvaises actions. Ce n'est pas un hasard. Et Allah Azza wa Jalla a établi cette règle dans le Coran, et il a dit « Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala » Il a dit « C'est lui qui a créé la vie et la mort, ou la mort et la vie, pour examiner lequel d'entre vous est de meilleures actions. Lequel d'entre vous est de meilleures actions. » Donc on voit bien ici que la sagesse de cette mort, c'est qu'Allah a une fin à cet examen qui est la vie, le temps qui est imparti à la personne, pour que Allah l'examine, et ensuite il lui reprend son âme jusque au jugement dernier. إذن المصير الموت مصير حتمي لكل إنسان وكذلك بعد الموت هناك مصيران لا ثالث لهما كما أكد ذلك ربنا سبحانه وتعالى حينما قال فريق في الجنة وفريق في السعير في الدنيا لك الخيار إما أن تسافر لتلقى الثلوج أو شواطئ البحار أو الجزر أو غير ذلك من الطبائع المختلفة أما بعد الموت فلا خيرة لك فلا اختيار لك إما إذا أحسنت فالحسنى وإذا أسأت فالجحيم والعياذ بالله. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith authentique, لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا أو لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, si vous saviez ce que je sais, il dit, vous ririez peu et vous pleureriez beaucoup. Il dit, si vous savez ce que je sais, vous ririez peu et vous pleureriez beaucoup. Pourquoi? Parce que le prophète Hassan a pris à une conviction forte, à la yaqin, cette certitude de ce qui va arriver après, de ce qu'est la mort et de ce qui attend la personne après sa mort. Et les étapes dans lesquelles il va passer, ces étapes qui font peur et par lesquelles chaque personne va passer. Et bien sûr, on déteste se rappeler de la mort. Beaucoup détestent se rappeler de la mort car c'est ce qui va les faire se détacher de leur plaisir. Et bien sûr, la mort, comme on a dit, ne frappe pas à la porte. Elles peuvent survenir à n'importe quel moment. Elles ne donnent pas de signes ou ne donnent pas, n'envoient pas une lettre pour dire dans autant de temps je vais passer, prépare-toi. Non, elles passent de manière subite, sans toquer à la porte, comme on dit. Malheureusement, ce qui a trompé beaucoup de jeunes, c'est la santé de laquelle ils jouissent, de la force de leur santé. Ce qu'on appelle en arabe « toulul amel », la longue l'espérance. Ils pensent que la mort est quelque chose qui n'arrive qu'aux autres. Lui, il est encore jeune, et il entend comme ça des gens qui meurent, mais il se dit, comme on se dit souvent, Allah va, Inch'Allah, va me laisser en vie. Moi, je vais passer le cap. Et Anissa, c'était pour lui. C'est une exception, ce jeune-là. Mais moi, Inch'Allah, je vais quand même passer le cap, Inch'Allah, et je vais vivre quand même assez vieux. J'aurai le temps pour me repentir et pour faire des bonnes actions. Hein? On a espérance, comme ça, dans la longue vie qu'Allah va nous laisser en vie. Alors que, bien sûr, malheureusement, nous n'avons aucune garantie. Qui est capable de me dire où il sera demain? S'il se rend vie. Qui dans cette salle est capable? Personne. Pas même les prophètes ne savaient exactement quand la mort allait le toucher. Un des salafs disait « Je me suis préparé à la mort depuis 30 ans. » Il dit « Ça fait 30 ans que j'attends tous les jours. » Il dit donc, je me suis préparé pour la mort. Et il disait, si on me demandait, un autre disait de lui, si on lui aurait dit que la mort serait survenue, surviendrait le lendemain, il dit, il ne pourrait pas faire plus que ce qu'il fait aujourd'hui. Donc nous autres, si on nous disait la mort va nous toucher dans une semaine, c'est fini. On va sortir d'ici, on va se diriger chez soi, qiyam al-layl, demain on va jeûner. Peut-être même 7 jours consécutifs, le Coran, on va le terminer tous les jours une ou deux fois, tout l'argent qu'on a, on va aller à la banque demain matin, prendre tout ce qu'on a, le donner fils à l'Illah, en laissant un peu pour ses héritiers, et Annie, on va faire tout ce qu'on peut. Et bien cet homme-là, il savait que la mort allait arriver, et il dit, ça fait 30 ans qu'il s'est préparé. Et on lui a dit, si on lui disait, demain tu vas mourir, il ne pourrait pas ajouter d'action à ce qu'il fait. Pourquoi? Parce qu'il a cette certitude et il agit comme si demain la mort allait survenir. Et il ne peut rien ajouter. Et on remarque cela même chez des musulmans. Chez les mécréants, bien sûr, c'est flagrant. Lorsqu'on leur cite la mort, ils disent « Mais tu es encore jeune. Tu es comme une vieille ou comme un vieux. Tu penses à la mort, etc. » Tu es encore jeune, arrête de te gâcher la vie. Mais malheureusement, on remarque que cette idée s'est infiltrée même chez de nombreux musulmans. Et que lorsqu'on leur cite la mort, ils disent, mais tu parles comme un vieux. Qu'est-ce que tu as? On dirait une vieille bobonne qui radote. Hein? Toujours la mort, tu vois tout en noir, etc. Alors que bien sûr, non. Le musulman doit se rappeler constamment la mort. Comme on va voir dans les hadiths qui ont été cités à ce moment-là. Bien sûr, ça ne veut pas dire pour ça que la personne n'agit pas dans cette vie et aussi ne fait pas ce qu'il doit faire pour vis-à-vis de sa propre personne, de sa famille, comme travail, et qu'il ne peut pas avoir des moments de repos ou des moments de loisirs que l'islam nous a permis d'avoir. Ne pas comprendre non plus que, comme certains l'ont mal compris dans certaines autres religions auparavant, que la mort, pour se préparer, il faut se retirer dans un désert, dans une grotte, et ne plus que prendre un tesbih et dire 5000 fois par jour, 10000 fois Allah Akbar, Subhanallah, et en laissant sa famille, et... non, ce n'est pas ça. Il faut atawazun, il faut mettre toutes les choses à leur place. Voilà qu'il malgré ça, comme on le voit dans le hadith, il faut se rappeler la mort pour toujours s'encourager à faire de plus en plus d'actions. C'est quelque chose qui motive, qui donne du dynamisme à la personne pour agir, pour préparer donc la demeure de l'au-delà. Et on a dit Al-Hassan, comme il est rapporté, on lui a dit Nujalisu aqwaman yukhawifunana. On lui a dit donc, une personne est venue le trouver, il lui a dit écoute, on tient parfois des assemblées avec des personnes qui nous font peur. Ils nous rappellent toujours la mort, constamment la mort, l'au-delà, l'enfer, etc. Et Annie, ça nous fait peur. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Wallahi, innaka in tukhalita aqwaman yukhawifunaka hatta yudrikaka amn. Il a dit Wallah, que tu sois assis, que tu te rassembles avec des gens qui te font peur, afin que, après, tu sois en sécurité. Khayrun min an tashhaba aqwaman yu'minunaka hatta yudrikaka al-khawf. Il a dit c'est meilleur pour toi que le fait de t'assembler avec des gens qui te mettent en sécurité, c'est-à-dire qui te distraient par rapport à l'au-delà et la mort, hatta yudrikaka al-khawf, jusqu'à ce que tu atteignes réellement la crainte. Pourquoi? Parce que à force d'être distrait, tu n'auras rien préparé pour cela, et donc le jour où va te venir la mort, tu seras dans un état craintif parce que tu n'as rien préparé. Donc il a dit que tu te rassembles avec ces gens-là, qui te rappellent la mort constamment, qui te font peur, jusqu'à ce que tu sois en sécurité le jour de ta mort avec les actions que tu as préparées pour cela, vaut mieux pour toi que le fait d'être avec des gens qui te mettent en sécurité et qui te distraient pour qu'après tu atteignes la crainte réelle, qui est celle donc de la mort, parce que tu n'as rien préparé pour cela. Et il convient à chacun d'entre nous de profiter de chaque instant de notre vie. Bien sûr, tous, on a ce qu'on appelle el-rafla, l'insouciance, et des moments qui nous touchent, mais comme on a des moments d'oubli qui nous touchent. Et bien sûr, cela fait partie aussi de la nature humaine, et c'est une miséricorde aussi d'Allah Azza wa Jalla, comme on dit certains salaf, car si nous devions toujours avoir la mort à l'esprit, on ne pourrait plus travailler, on ne pourrait plus faire beaucoup de choses, des choses qu'on doit absolument faire. Donc, et c'est ce que on tire aussi du hadith de Hamzala radiallahu anhu, le jour où il a rencontré Abu Bakr radiallahu anhu, et il lui a dit Nafaqa Hamzala. Il lui a dit Hamzala est devenu munafiq, hypocrite. Et Abu Bakr de s'étonner, radiallahu anhu, de dire comment cela? Comment es-tu devenu hypocrite? Et il a dit voilà, lorsqu'on s'assied en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous rappelle, il nous fait un rappel, une exhortation. Il dit c'est comme si on voyait le paradis et l'enfer de nos propres yeux, comme s'il prenait place devant nous, il prenait forme à nos yeux devant nous. Il dit, mais ensuite, lorsqu'on rentre dans nos familles, avec nos épouses, nos enfants, on oublie, on discute, on joue, etc., et on oublie cela. Abu Bakr a dit, je ressens la même chose, je ressens la même chose que toi. Il dit, allons voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour voir quel est le remède à cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a entendu cela, a dit, si vous étiez dans un état, si vous restiez constamment dans cet état, il dit, les anges descendraient vous serrer les mains sur vos chemins. Mais il a dit, ça, il a dit, ce n'est pas possible de rester constamment dans cet état. Ce n'est pas possible, même pour quelqu'un comme Abu Bakr, qui est le meilleur homme après les messagers et les prophètes, ce n'est pas possible pour lui de rester constamment dans un état de cet état dans lequel on se trouve lorsqu'on a par exemple l'exhortation, lorsqu'on se rappelle la mort. Donc ça c'est quelque chose de naturel que la personne oublie et ait des instants d'insouciance. Voilà que ce qui est grave, c'est que la personne soit dans un état d'inconscience et d'insouciance constant, perpétuelle. C'est cela qui est grave. Et bien sûr un état d'insouciance qui n'est plus de limite et qui ne l'empêche pas de tomber dans ce qu'Allah a interdit et d'accomplir ce qu'Allah lui a rendu obligatoire. Donc ça c'est l'état qui est grave. Et celui qui est raisonnable, c'est celui qui agit et qui exploite sa vie, qui utilise chaque instant de sa vie pour construire son au-delà. Et soyez sûr que chacun d'entre nous, le jour où on va trouver la mort, on va dire comme Allah Azzawajal a relaté dans le Coran par rapport à ce qu'ils disent, Rabbi Irji'un, il dit, Seigneur, remets-moi sur terre. Remets-moi sur terre, pourquoi? Pour ajouter quelques actions. Nous tous, lorsqu'on sera dans la mort, on voudrait descendre, revenir sur terre, revenir à la vie, pour dire une fois peut-être un tahlil, la ilaha illallah dans la balance, ou subhanallah, ou 30, 40, 50 francs de sadaqa, ou une prière. Tous, quoi qu'on ait fait comme action, lorsqu'on va voir cela, chacun d'entre nous voudrait revenir pour, et il regrette ce qu'il a perdu comme temps, mais il est trop tard. Il voudrait revenir pour ne plus que faire quelques actions qui sont, comme on dit, qui lui ont échappé. Mais il est malheureusement trop tard à ce moment-là. Et malgré que on sait cela, pourtant beaucoup d'entre nous ne se préparent pas comme il le faut à ce moment-là. Et un de ses lèvres disait, il y a trois bienfaits que tire la personne du rappel de la mort. Il dit, il y a trois bienfaits que tire la personne du rappel de la mort. Il dit, le premier de ces bienfaits, c'est un repentir direct. Ta'jil al-tawba. Il dit, un repentir direct. Il ne reporte pas à le repentir. Parce qu'il sait qu'il peut mourir avant qu'il n'ait l'occasion de se repentir, il se repentit directement. Ça, c'est le premier bienfait. Le deuxième bienfait, il dit, c'est le contentement du cœur. C'est-à-dire que il est content avec ce qu'Allah Azzawajal lui a donné comme bienfait dans ce bas monde. Et il ne cherche pas, par tous les moyens, et passer tout son temps à essayer de rassembler l'argent et les bienfaits. Et le troisième bienfait, c'est l'ardeur, l'activité et l'ardeur dans l'adoration. Ça donne de l'ardeur, du courage dans l'adoration. Et il dit l'oubli de la mort, il continue, il dit l'oubli de la mort donne à la personne, ou la personne qui oublie la mort est, si on veut, punie par trois choses. Il dit la première de ces choses, c'est le fait de retarder le repentir, de reporter le repentir à plus tard. Parce que comme on a dit, tout l'amen, il se dit, j'ai encore du temps pour me repentir. J'ai encore tout le temps devant moi, pour moi je suis jeune, laisse-moi profiter, plus tard on va se repentir. Il dit la deuxième de ces choses, le non-contentement. C'est-à-dire qu'on dirait qu'il veut, il va vivre 1000 ans sur terre. Et qu'il aura toujours de la santé et de la force pour profiter des bienfaits, alors il rassemble le plus possible. Et il passe tout son temps, toute son énergie dans le fait de rassembler des bienfaits et des francs, de l'argent. Et le troisième, c'est la fainéantise dans l'adoration. L'oubli de la mort, bien sûr, ça donne la fainéantise dans l'adoration. Cette faiblesse de la conviction de la mort, ça ne pousse pas la personne à travailler. Et bien sûr, c'est conjugué avec cette espérance qu'il se dit, bon, plus tard, je vais mieux, je vais avoir plus de conviction, tout ça, on va faire plus d'action, on va faire plus. Hein? Donc ça, c'est les trois choses par lesquelles sont punis celui qui oublie la mort. Ibn Ahad al-Salaf, قال رحمه عليه في تذكر الموت ثلاث فوائد. قال أولها تعجيل التوبة. أن الإنسان يعجل التوبة ولا يؤخرها، لأن ما يدريه، لعله يدرك الموت دون تحقيق التوبة. والفائدة الثانية القناعة، قناعة القلب، أنه لا يسمع في الزيادة الدائمة من متاع الدنيا ويرضى بما قد قسمه الله له. الفائدة الثالثة النشاط في العبادة. والعكس ذلك في نسيان الموت ثلاث سلبيات. أولها تعجيل تأخر وتأخير التوبة، تأخير التوبة، الإنسان يؤخر التوبة لأجل أو بسبب طول الأمل، عدم القناع، القناع. السلبية الثانية عدم القناع، والسلبية الثالثة الكسل في العبادة. Et un des poètes dit par rapport à la mort, وَلَدَتْكُ أُمُّكَ يَا ابْنَ آدَمَ بَاكِئًا. Il dit, ta mère t'a mis au monde en pleurant. Vous avez remarqué, chaque enfant, bien sûr, lorsqu'il naît, il pleure. Il dit, وَلَدَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ آدَمَ بَاكِئًا. وَالْقَوْمُ حَوْلَكَ يَضْحَكُونَ سُرُورًا. Il dit, et les gens qui sont autour de toi rigolent par joie, par bonheur. Ton père, ta mère, ta famille, ils rigolent, ils sont joyeux de ce nouveau-né, de l'arrivée du nouveau-né. Et il dit, فَأَمَلْ مِيَوْمِ أَنْ تَكُونَ إِذَا بَكَوْ فِي يَوْمِ مَوْتِكَ ضَاحِكًا مَسْرُورًا. Il dit, alors agis pour un jour où tu seras, lorsque eux vont pleurer, donc pour ta mort, que toi, ce jour-là, tu sois riant et joyeux avec ce que tu as préparé comme action. Ce sont des vers très très grandioses de ce poète. Il dit donc, lorsque tu es né, les gens t'ont accueilli avec un sourire et ils rigolaient et toi tu pleures. Parce que le jour où tu vas mourir, lorsque eux pleurent, toi tu ris à ton tour et tu sois content de rencontrer la mort pour ce que tu lui as préparé comme action. Et un autre disait, pleure sur toi-même, avant qu'on ne pleure sur toi. Il dit, pleure sur ta propre situation, et remédie-y avant que ce soit autrui qui pleure sur toi lors de ta mort. Et il dit, porte-toi à l'adoration, porte ton âme à l'adoration, avant qu'on ne te porte sur les épaules. Hein, la Genaza, d'ailleurs, on la porte. Et il dit aussi, juge-toi toi-même, fais ton propre compte, ta propre comptabilité avec ton âme, avant que tu ne sois jugé par Allah Azzawajal. Et car il dit, lorsque tu seras dans ta tombe, tu seras laissé seul et tu seras otage de tes actions. Tu seras l'otage de tes actions. Donc ça aussi, c'est une autre sagesse qu'a dit un des célèbres. Et un autre d'eux disait, ما أكثر عبد ذكر الموت إلا رؤيا ذلك في عمله. Il dit, aucun serviteur ne multiplie le rappel de la mort sans que ça ne se voit dans ses actions. Le fait de multiplier le rappel de la mort se voit, se répercute dans les actions de la personne. La tombe est la seconde demeure de chacun d'entre nous. Et on en est sûr. Le fait de multiplier le rappel de la mort se voit, se répercute dans les actions de la personne. La tombe est la seconde demeure de chacun d'entre nous. Et on en est sûr. Mais malgré tout, pour se construire une demeure dans ce bas monde, on fait tout ce qui est en nos moyens. On économise, hein, on envoie des mandats, des virements dans différents pays pour construire les maisons pour compléter leur construction. Mais malheureusement, on ne prend pas beaucoup d'économies pour construire la demeure de l'au-delà, pour construire la demeure, la tombe. Hein? Pour voir que ce soit une parcelle du paradis ou une parcelle de l'enfer. Ça, malheureusement, n'économise pas, on n'envoie pas beaucoup de mandats avec nos actions, avec les bonnes actions qu'on fait. Mais dans ce bas monde, avec l'argent, là, on essaye de faire des économies sur chaque chose pour pouvoir acheter, pour pouvoir construire, pour pouvoir achever les constructions qu'on entame. Il faudrait qu'on prenne au contraire plus de nos actions pour essayer de construire cette demeure. la demeure de l'au-delà. Et la première, bien sûr, vous savez, la première étape de l'au-delà, c'est la tombe. C'est la première demeure dans laquelle cette demeure intermédiaire, al-hayat al-barzakhiyya, cette demeure entre les deux, en attendant d'être jugé par Allah Azzawajal et de rentrer au paradis ou en enfer. Donc il faut penser aussi comment on pense à construire les maisons ici-bas. Il faut aussi penser à faire des économies et envoyer ou à économiser des actions et du bien pour construire cette demeure. Et un des célèbres disait à ce propos, un des anciens, il disait « Ma ra'aytu yaqinan ashbahu bishakli yaqinin nasi bil maut » Il dit « Je n'ai pas vu une certitude qui ressemble plus au doute que la certitude des gens par rapport à la mort. » Il dit donc « Je n'ai jamais vu de certitude qui ressemble plus à un doute que la certitude des gens par rapport à la mort. » Chaque personne est convaincue qu'il va mourir. Voilà qui, qu'est-ce qu'il dit ensuite ? Yani, ça a l'air d'être malgré tout douteux. Yani, c'est comme s'ils avaient quand même un doute. « Ma rafiatim an » de par leur insouciance par rapport à la mort. Et il dit ensuite « Wa ma ra'aytu sidqan ashbahu bil karibi » من قولهم إنا نطلب الجنة مع عجزهم عنها وتفريطهم في طلبها وتفريطهم في طلبها. Il dit donc, et je n'ai pas vu de sincérité qui ressemble plus à du mensonge que la parole des gens, nous voulons le paradis alors qu'ils ne le possèdent pas, avec le peu d'action qu'ils font pour l'obtenir. Donc tout le monde dit on veut le paradis. C'est la vérité. Voilà qu'il dit on dirait que c'est un mensonge. Parce qu'on ne fait rien pour l'obtenir. Hein? On dirait que c'est un mensonge. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ne font rien, ne font pas d'action pour l'obtenir alors qu'on ne sait pas se l'accaparer de force. On n'a qu'un seul moyen, c'est de rechercher l'agrément d'Allah Azzawajal pour qu'il nous fasse miséricorde et nous fasse rentrer parmi ses pieux serviteurs auprès de lui, donc au paradis. Et un des célestes a fait une poésie et il dit Layta sha'ri fa innani lastu adri ayya yawmin yakunu akhiru umri. Il dit malheur à moi. Il dit car je ne sais pas quel jour sera le dernier de ma vie. Quand est-ce que va survenir la mort? Il dit je ne sais pas. Et il dit dans quel pays mon âme sera reprise. Et il dit aussi je ne sais pas dans quel pays sera creusée ma tombe. Et il y a meilleur que la parole du poète, c'est la parole du prophète du poète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit أكثروا من ذكر هذه اللذات. Il dit multipliez le rappel de la briseuse, de ce qui brise les plaisirs et les délices de cette vie ici. Bien sûr, quel est ce qui brise les délices? Il dit c'est la mort, bien sûr. Elle nous sépare de nos familles, de notre confort, de notre argent, de nos biens, de nos loisirs, de tout ce qu'on aime. Yani la mort nous arrache à tout ça et c'est fini. On est laissé seul dans ce trou noir, dans la pénombre. Yani akthiru min dhikri hadhihi al-ladhat. Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rajoute fama dhukira fi qalilin illa kathara. Il dit on ne s'en rappelle pas, on s'en rappelle donc dans le bienfait, dans lorsqu'on a beaucoup de choses, on ne s'en rappelle pas dans la difficulté sans que cela ne facilite les choses. Pourquoi? Quelle est l'explication de ce hadith? Parce que lorsque la personne ressent la difficulté, la pauvreté, et qu'il se rappelle de ce qu'il y a après la mort dans l'au-delà, yani, cela amoindrit et rend ce bas monde vil à ses yeux et sans valeur. Et il dit, wala fi kathirin illa qallala. Par contre aussi, et la personne ne s'en rappelle pas dans l'aisance sans que cela, yani, amoindrisse cette aisance. Pourquoi? Parce que même si tu as des milliards, tu sais qu'un jour, il peut être proche ou lointain, tout ça ne va te servir à rien. Tu vas partir dans ta tombe, c'est fini. Toutes tes milliards, tes demeures, elles vont d'être aucune utilité. Bien, rappelez-vous de ce hadith. فَمَا ذُكِرَ فِي قَلِيلٍ إِلَّا كَثَرَ وَلَا ذُكِرَ فِي كَثِيرٍ إِلَّا قَلَّ. Et bien sûr donc, un des célèbres disait, par rapport à la préparation d'ici-bas, même si cela est difficile, et surtout dans, à l'époque justement dans l'étape de la jeunesse, car comme on a dit, beaucoup de nos jeunes sont trompés par Soulul Amel, par cette longue expérience, hein, cette longue espérance, et ils croient qu'ils vont vivre jusqu'à 60, 70 ans et auront le temps donc de faire toutes ces bonnes actions. Et un des célèbres disait, عند الصباح يحمد القوم الصلاة وعند الممات يحمد القوم التقى. Il disait donc, c'est au matin, c'est l'heure du lever du soleil, que la caravane, les gens de la caravane sont contents qu'ils ont voyagé la nuit. La nuit, il fait frais pour les gens dans les caravanes qui étaient dans le désert, et ils avancent. C'est fatigant, ils veulent se reposer, mais ils avancent, il y a pas de, ils profitent de la nuit. Et le matin, lorsque vient la chaleur, ben, ils peuvent se mettre à l'abri du soleil et se reposer. Et c'est à ce moment-là qu'ils sont contents, qu'ils ont peiné la nuit et qu'ils ont avancé alors qu'ils voulaient dormir. Et un, donc ce célèbre dit cela, et il dit ensuite, وَعِنْدَ الْمَمَاتِ يَحْمَدُ الْقَوْمُ التُقَى. Et il dit, c'est lors de la mort que les gens sont contents de la crainte d'Allah. Sont contents qu'ils aient fait des actions, même si c'était dur durant cette vie, toujours de faire ces actions, qu'il avait un peu de difficulté. C'est lors de la mort qu'on est content de ce qu'on a semé, hein, parce qu'on récolte maintenant les fruits. Et un autre disait également, كلنا قد أيقن بالموت ما ترى له مستعدا. Il dit, malgré le fait que tous soyons convaincus de la mort, on ne voit personne qui s'y prépare. Et il dit, وكلنا قد أيقن بالجنة ولا ترى له لها عاملا. Et il dit, tous nous avons la conviction du paradis, mais tu ne vois personne qui fait des actions pour l'acquérir. Et il dit, وكلنا قد أيقن بالنار وما ترى لها خائفا. Et il dit, tous avons la conviction de l'enfer, mais tu ne vois personne qui le craint. Tu ne vois personne qui le craint. Et Inch'Allah, pour terminer, on va citer trois parmi plusieurs de nombreux moyens, de nombreux moyens qui rappellent, qui aident à rappeler et à faire un rappel de constant de l'amour. Il y a un conseil prophétique qui est tombé tout à fait en désuétude à notre époque et que les gens n'accomplissent plus, qui est le fait de, lorsqu'on a l'occasion, visiter les tombeaux, les cimetières. De visiter donc les cimetières. Et pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il est rapporté dans Sahih Muslim, dit « Akhiru uzuru al-qubur » Il dit « Visitez les tombes ». Et ensuite, il dit la sagesse de cela, il dit car elle rappelle l'au-delà. Lorsqu'on se promène à travers les chemins de la tombe, et tu te rappelles de ces visages de gens que tu as connus, et qui sont maintenant soit dans ce cimetière ou dans d'autres cimetières, il n'y a pas un cimetière propre à visiter, mais tu te rappelles de ces visages, que ce soit les gens de ta famille ou tes amis, tous ces visages que tu te rappelles, tu dis qu'ils sont maintenant en dessous de la petite bosse de terre. Ils sont en dessous donc de la terre. Et que tôt ou tard, tu seras toi là également, et les gens viendront. Et ils viendront aussi visiter, et toi peut-être tu seras à côté de leurs pieds. Yannis, cela bien sûr rappelle l'au-delà et nous donne du courage. Et la personne sur laquelle, toi tu pries aujourd'hui sur les personnes, lorsqu'il y a Salatul Jannah, n'oublie pas que demain c'est sur toi qu'on va prier. Les prières que toi tu effectues sur le mort, demain on pourra, on dira aussi peut-être Salat ou Al-Mayt, prière sur le mort, et ce mort, ce sera toi. Donc le premier moyen, visiter les tombeaux, les cimetières, dès qu'on en a l'occasion. Bien sûr, pas la visite innovatrice, comme le font certains aujourd'hui, aller déposer des fleurs, ou encore pire que ça, aller invoquer les morts, ou lire je ne sais pas quoi, le Coran, non. Ce n'est pas de ça qu'on parle, bien nous comprendre. Quand on dit la visite, c'est simplement aller en disant le rappel, la formule que le disait le prophète Hassan lorsqu'il visitait les tombeaux, le salut sur les gens du cimetière, et ensuite, pour méditer, pas plus, pas pour aller déposer des fleurs, ou mettre un vase, ou encore pire que cela, invoquer les morts, ou faire d'autres innovations comme lire le Coran ou d'autres choses de ce genre-là, non. La lecture du Coran, mon frère, te profite à toi, pas aux morts. C'est pour toi que tu dois lire le Coran, pas pour le mort. Vous savez que le mort, yanqati'u amal, illa min thalath, il dit, comme dit le prophète Hassan, le mort, il n'a plus de bonnes actions qu'il puisse faire si ce n'est trois choses. La première de ces choses, sadaqatun jariya, une sadaqa qu'il a laissée, une école qu'il a construite, une mosquée, etc. Donc, les gens continuent à utiliser et à profiter de cette aumône, des effets de cette aumône qui reste, qui persiste, qui perdure. La deuxième, ra'ilmun yuntafa'udi, une science qu'il a laissée, et ça, ça m'en prend ici, le mérite des savants. À eux tout seuls, ils ont un de ces trois actions dont ils continuent à percevoir les fruits après leur mort. Des livres ou autre chose qu'ils ont laissé, donc, et par rapport auxquels les gens continuent de s'instruire, desquels les gens continuent de s'instruire. Et troisièmement, waladun salih yad'oula, ou un enfant pieux qu'il a laissé, et ça aussi souvent c'est suite aux efforts qu'il a fait sur terre pour éduquer ses enfants, qu'ils soient des gens pieux et qu'ils pensent à invoquer. Il y a beaucoup d'enfants, ils invoquent jamais pour leur père, au contraire, c'est qu'ils le maudissent. Hein? Mais donc, les fruits de l'éducation qu'il leur a donné aussi, waladun salih yad'oula, un bon enfant qui l'invoque et invoque donc en sa faveur. Donc ça c'était la première raison, la première cause, Afwan, qui est pour se rappeler la mort, c'est de visiter les cimetières. Deuxième de ces causes, c'est le fait de méditer le Coran, lire le Coran le méditant, et surtout les versets qui parlent de l'au-delà, de la description du jour du jugement dernier et de la mort. Méditer ces versets, pas juste les lire à vitesse TGV, sans qu'on ne comprenne pas leur sens. Et plus on médite le Coran, plus on lit l'exégèse, l'explication des versets, plus lorsqu'on lit ces versets, ils ont un impact sur notre âme, car on en connaît le sens, on sait ce qu'Allah Azzawajal veut à travers ces versets. Et la troisième cause, pour terminer cette intervention, la compagnie, la bonne compagnie, la bonne fréquentation. Être avec des gens qui nous rappellent de faire le bien et qui nous rappellent la mort. Malheureusement, il faut dire ce qu'il est, on a une crise entre guillemets, spiritualité, si je veux dire, à cause du monde matérialiste dans lequel on vit. Et même beaucoup d'entre nous, même beaucoup de frères, à la longue barbe et au chapeau, etc., leurs cœurs sont devenus durs à cause du matérialisme et de l'effet du matérialisme sur nos cœurs, surtout dans ce genre de société où tout est, il faut courir, il faut, etc., l'administration, les papiers, etc. Donc, à force d'être coulé là-dedans et dans ce bas monde, ça durcit les cœurs. Et ça, c'est quelque chose qu'on ressent tous, ou la majorité d'entre nous. Donc, il faut bien sûr se donner un temps pour essayer d'attendrir les cœurs, comme on a dit, par le cimetière, par la lecture du Coran, par l'apprentissage de la science, et par rester avec des frères, je dis bien des frères qui te profitent. Malheureusement, pas tous les frères te profitent. Il y a des frères, c'est vrai, sont des gens bien, ils prient, mais malheureusement, quand tu es avec eux, ils ne te rappellent pas vraiment l'amour ou le bien. On commence à discuter de ça ou de ceci ou d'autres choses qui ne sont pas vraiment d'un intérêt direct pour nous. Donc, bien sûr, ces frères, ce sont nos frères, il faut leur donner leurs droits. Voilà qu'ils surtout essayent d'être avec les frères qui t'enjoignent ce rappel justement de la mort et le fait d'étudier ta religion, d'avoir la croyance correcte et aussi, bien sûr, connaître Allah Azzawajal, connaître son créateur. Aussi beaucoup aujourd'hui, dans nos assemblées, on ne se rappelle plus beaucoup d'Allah Azzawajal. Et on ne parle pas beaucoup d'Allah Azzawajal, de ses plus beaux noms, de ses attributs grandioses, de perfection absolue. Tout ça sont des choses qui ont leur effet, un effet immense sur les cœurs. Vouloir rencontrer Allah Azza wa Jalla au paradis. Tout ça sont des choses auxquelles aussi nous on doit s'en joindre. Wa tawassu bil haqq, wa tawassu bil sabr. Yani, tawassu, malheureusement, ce fait de s'en joindre mutuellement, c'est quelque chose qui est devenu très, presque inexistant dans notre communauté. Même parfois entre frères, on se voit et regardez pendant combien de temps est-ce qu'on parle d'Allah Azza wa Jalla en frère. Ou combien de temps est-ce qu'on parle vraiment de choses qui nous rapprochent d'Allah Azza wa Jalla, parfois sur une assemblée, yani, on voit que ce n'est pas grand-chose, parfois, même entre frères. C'est pour ça, yani, il faut essayer de faire un effort et essayer aussi d'attendrir nos cœurs avec les moyens qui ont été cités. Une dernière intervention d'une histoire qui est arrivée, racontée par un des étudiants d'un très grand savant de cette époque, qui était Cheikh, le très réputé Cheikh Ibn al-Uthaymeen, rahmatullah alayh. Un de ses étudiants dit qu'un jour il était derrière lui, donc après la prière du Sobh. Et donc le Cheikh est resté à sa place et il a commencé donc à faire des dhikr, le rappel d'Allah Azza wa Jal, et à lire le Coran. Et le Cheikh, bien sûr, donc, avec la fatigue, de temps en temps, donc, vous voyez, il était pris de fatigue jusqu'à ce que, donc, il allait s'assoupir. Chaque fois, vous voyez, sa tête descendait, etc., et il se réveillait. Et donc, lui, le jeune, cet étudiant, était derrière lui, et à un moment, donc, il voyait que le sommeil le prenait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ses mains et il a tapé sur ses cuisses. Et il a dit, donc, il s'appelait Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, et il a tapé sur ses cuisses et il disait An-Nar ya Mohammed, An-Nar ya Mohammed. Donc il disait le feu, oh Mohammed, le feu. Et on est pour s'encourager à continuer à lire et à faire donc ces bonnes actions. Donc regardez, il y a quelqu'un, c'est aussi donc quelque chose que nous devons prendre en considération et tirer une leçon de cette histoire. Malheureusement, parfois quand on est pris de fainéantise ou autre, pensez toujours donc à cette réalité. Wallah alim, barakallahu fik. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum wa li sa'ir muslimin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fik.